Nous sommes devant le réacteur Orphée. C'est un petit réacteur de recherche, petit comparé au réacteur fabriqué par l'EDF pour produire de l'électricité. Ce réacteur est destiné à produire des faisceaux de neutrons. Les faisceaux de neutrons sont utilisés depuis 1945 aux États-Unis, depuis 1950 en France. Et dès le début de ces études, des associations entre chercheurs du CNRS et du CEA se sont construites pour étudier les propriétés magnétiques de la matière. Devant le succès des différentes équipes européennes qui utilisaient des faisceaux de neutrons, la France et l'Allemagne, puis l'Angleterre, à la fin des années 70, ont décidé de créer le réacteur à haut flux à Grenoble et l'Institut Laue-Langevin. Celui-ci étant saturé très tôt, en 1974, le CNRS et le CEA m'ont demandé de créer un laboratoire national français, le laboratoire Lyon-Brillouin, puis plus tard le réacteur Orphée qui donne des faisceaux de neutrons aux chercheurs français depuis 1981.
L'examen de la coupe verticale du réacteur permet de comprendre les principes de conception. C'est à mi-hauteur de la piscine, entre ces deux planchers, que se trouvent les composants essentiels du réacteur. Le caisson du cœur est un parallélépipède en zircaloïde de 25 cm de côté. La hauteur active du cœur est de 90 cm. Le caisson joue le rôle d'une conduite forcée au centre du circuit primaire de refroidissement. L'eau évacue la puissance thermique du cœur par une circulation descendante. Le circuit comporte des pompes et des échangeurs de chaleur avec le circuit secondaire. À l'intérieur du caisson se trouvent les 8 assemblages du cœur, dont 4 contiennent des matériaux absorbant les neutrons et qui sont appelés barres de contrôle. Le cœur est disposé dans un réflecteur d'eau lourde qui joue un rôle de diffuseur. Il agrandit en quelque sorte le cœur, si bien que l'on bénéficie d'un grand volume pour loger les dispositifs d'extraction des neutrons, les canaux. Pour la spectrométrie neutronique courante, on utilise des neutrons émis à 50 degrés centigrades. Toutefois, certaines expériences requièrent des neutrons d'énergie différente. Aussi a-t-on placé à l'intérieur du réflecteur d'eau lourde des dispositifs permettant d'obtenir des températures ou très basses ou très élevées, une source chaude et deux sources froides. L'eau ordinaire et les murs de béton de la piscine assurent la protection biologique. En coupe horizontale, on retrouve le caisson du cœur avec ses 4 assemblages standards et ses 4 assemblages de contrôle. Ils sont disposés autour d'un élément central en béryllium qui améliore le bilan de la réaction nucléaire. Autour du cœur, on retrouve successivement le réflecteur d'eau lourde, la protection biologique d'eau ordinaire, et la structure en béton de la piscine. À travers cette structure passent 9 canaux dont le nez débouche à proximité du cœur, là où le flux de neutrons utilisable est maximum. 3 canaux visent 2 sources froides, 2 autres canaux visent une source chaude. La piscine principale d'Orphée s'ouvre sur une piscine annexe où ont lieu les opérations de mise en œuvre et de récupération du combustible. Les deux piscines peuvent être séparées par un batard d'eau. On retrouve dans la piscine les principaux équipements du cœur, le mécanisme des barres de contrôle, entre les barres, la trappe d'accès au cœur, la source chaude, dont on voit le flexible et qui est constituée d'un bloc de graphite porté à 1200 degrés centigrades par le seul échauffement gamma du cœur. les sources froides, qui sont constituées d'une cellule remplie d'hydrogène liquide, à la température de moins 250 degrés centigrades.
Ainsi, Orphée dispose d'une source qui permet de délivrer aux utilisateurs trois sortes de neutrons. Des neutrons tièdes, à la température ordinaire, 60 degrés centigrades. Des neutrons chauds, à 1250 degrés centigrades. Et des neutrons très froids, à moins 250 degrés centigrades.
Ces neutrons sont propulsés du cœur vers l'utilisateur dans des tubes ou guides à neutrons.
Les neutrons émis par le réacteur ont une vitesse relativement lente, sortis des sources froides, et sont de l'ordre de 1000 mètres par seconde et sont propagés sur des grandes distances par l'intermédiaire de guides de neutrons. La densité de ces neutrons, ou le flux de particules émis par le réacteur à l'entrée de ces guides de neutrons, est de l'ordre de 10 puissance 10 neutrons par centimètre carré par seconde. C'est une densité relativement faible comparée aux autres rayonnements. Il faut donc pouvoir guider ces neutrons sur de longues distances sans les perdre. Ce guidage est permis grâce à un système de guide de neutrons qui est constitué par quatre dalles de verre collées ensemble, qui sont des verres enrichis en bore, le bore étant un matériau absorbant pour le rayonnement neutronique. Et l'intérieur de ces dalles de verre est métallisé par un réflecteur de nickel sur lesquels les neutrons se propagent par réflexion totale. Comme il y a réflexion totale, il n'y a pratiquement pas de perte d'intensité et on peut ainsi propager ce faisceau de neutrons sur des distances relativement longues, de l'ordre de 40 à 100 mètres. Les neutrons qui se propagent dans le guide de neutrons sont extraits de ce guide de neutrons pour les expériences qui sont utilisées le long de ce guide par l'intermédiaire de monochromateurs qui sont de ce type-là. Ce sont des monochromateurs en graphite pyrolytique qui permettent de sélectionner à l'intérieur du flux de neutrons qui se propage dans le guide des neutrons qui ont une longueur d'onde comprise entre environ 0,2 et 0,6 nanomètres.
Le faisceau sélectionné est dirigé sur un échantillon et on mesure sous différents angles l'intensité du rayonnement diffusé par l'échantillon. On peut connaître par exemple l'arrangement et le mouvement des atomes de l'échantillon.
Ce spectromètre est un spectromètre de diffraction. Le principe en est très simple. Vous avez ici le faisceau incident de neutrons qui traverse la matière. Alors la matière est enfermée dans un porte-échantillon de 7 dimensions à l'intérieur de l'enceinte à vide. De la position et de l'intensité des pics de neutrons diffractés, nous en déduisons l'ordre à l'intérieur de la matière, ordre des atomes, mais aussi des moments magnétiques présents dans l'échantillon. Ce que nous faisons ici, ce sont des études de physique fondamentale, mais des études à caractère appliqué, études de matériaux du point de vue texture et mesure de contrainte.
Et donc on est là devant l'appareil de diffusion aux petits angles, sur lequel on étudie, on fait des études de structure fondamentale, de matériaux, de polymères, de colloïdes, de beaucoup de choses qui ont des applications industrielles et pratiques assez importantes. Et là, ça tombe particulièrement bien parce que la personne qui, au niveau théorique, a lancé cette étude il y a une quinzaine d'années s'appelle Pierre-Gilles Degène et vient d'avoir le prix Nobel de physique. Et donc, tous les gens ici, je pense, sont particulièrement contents. Alors, les neutrons arrivent ici. Ils sont délimités en un pinceau très fin. Ils tombent sur l'échantillon. Et là aussi, ça tombe très bien parce qu'on a un échantillon de polymères cristaux liquides, des polymères qui sont des chaînes sur lesquelles les neutrons tombent. Et ces chaînes, c'est des choses qui sont utilisées pour faire des fibres au module d'élasticité, des gilets pare-balles, la soutane du pape quand il veut résister aux attentats, ou alors des capots de BX, et puis c'est aussi utilisé comme peinture pour les avions furtifs, les avions qui ne veulent pas être détectés par les radars. Donc les neutrons tombent, ils sont très très légèrement déviés et ils tombent sur le détecteur qui est à l'intérieur de ce grand bidon. Et on trace, sur l'ordinateur à côté, on trace la carte de dispersion des neutrons, la carte des endroits où sont tombés les neutrons. Et de cette carte, on déduit l'orientation du matériau, la structure des chaînes, et les gens qui veulent l'utiliser connaissent la structure fondamentale de ce matériau. Alors pourquoi on l'utilise pour étudier ces structures plutôt des neutrons que des rayons X, par exemple, que nos collègues de l'UR connaissent très bien? C'est parce que les rayons X sont assez peu sensibles à la matière organique, alors que les neutrons sont très sensibles.
Le réacteur Orphée offre un miroir magique à Ariane. La neutronographie visualise les joints toriques d'étanchéité du lanceur. L'image complète celle de la neutronographie au rayon X. En effet, les neutrons savent traverser les 10 mm d'acier inoxydable, opaque au rayon X.
Dans la salle de conduite, un synoptique permet de contrôler et de commander l'exécution des différents ordres donnés au réacteur. Deux ordinateurs saisissent toutes les informations relatives à l'exploitation d'Orphée. Sur le pupitre de la salle de conduite sont également regroupés tous les éléments qui permettent de suivre les paramètres de sûreté du réacteur. Pour assurer la sûreté de l'installation, le réacteur et ses circuits principaux ont été placés dans une enceinte de confinement. Maintenue en dépression, elle assure la retenue des substances radioactives qui pourraient être libérées accidentellement. De plus, elle protégerait l'installation dans le cas de la chute d'un avion. Le réseau de surveillance de l'installation comprend 51 points de contrôle de radioprotection. Les voies d'arrêt d'urgence sont doublées et indépendantes. Les voies de mesure de protection sont triplées et indépendantes. Les faisceaux de neutrons produits par Orphée sont donc, au même titre que les rayons X ou le rayonnement gamma, un puissant moyen d'étudier la structure de la matière.